Montesquieu, du sud Pays Toulousain, sont des descendants de ces familles. Et c'est intéressant, justement, de voir que beaucoup, nous avons des amis de Toulouse qui sont venus, vous voyez, qui ont fait le déplacement vers la campagne du Volvès pour écouter M. Christian Lagarde. Vous remarquez que cette transition est remarquable. Je me fais les compliments parce que, voilà, vous pourriez être timide et ne pas me les faire. Donc, nous avons un très grand plaisir à accueillir Christian Lagarde. D'une part, parce qu'il est ariégeois, il est bien ariège. Et c'est très important, moi, et je m'appelle Soula, vous savez, Soula, c'est pas les mecs d'ici tout à fait, c'est les mecs de l'Ariège. Donc, mais il est carbonais quand même depuis 1962, ce qui lui donne quand même un certain positionnement dans notre belle ville de Carbonne. Il est perpignanais depuis 32 ans, et depuis 23 ans, il est prof à l'université de Perpignan. Où, étant hispanisant de première spécificité, il s'est spécialisé en sociolinguistique. Et il s'intéresse plus particulièrement, dans ses recherches actuelles, au plurilinguisme. Et il me disait tout à l'heure, en aparté, qu'il s'intéresse à la traduction des gens qui font leur roman et qui se traduisent dans une autre langue, le français notamment, pour pouvoir espérer être publié et avoir un public plus large. Donc, cette notion de traduction, de l'auto-traduction, c'est quelque chose de très, très passionnant. Il est président d'honneur de la Société des hispanistes françaises. Il a donc été président avant. Et à l'heure actuelle, il est président de l'Association française des catalanistes. Donc, vous voyez, le plurilinguisme dans les langues latines le connaît. Au-delà de cela, il a un intérêt très fort pour les événements qui sont passés vers le milieu du siècle précédent et qui ont fait que beaucoup de personnes ont traversé les Pyrénées. Cher Christian Lagarde, le micro est à vous. Merci.
Merci beaucoup. J'ai un grand plaisir à être parmi vous et devant vous ce soir, parce que bon, même si j'ai une relation avec Carbonne qui est un peu en pointillé, j'y viens très très régulièrement pour voir ma famille, et je suis très attaché aux années que j'y ai passées, qui étaient celles de la préadolescence, de l'adolescence et le début de ma jeunesse. Voilà, et puis vous savez ce que c'est, on part fonctionnaire ailleurs et on finit par se retrouver donc dans un autre coin. Voilà, donc j'ai beaucoup de plaisir à être devant vous. Je vais vous dire tout d'abord que je ne suis pas spécialiste du sujet que je vais traiter, autrement dit, je ne suis pas un historien spécialiste de la rétinale. Comme cela vous a été dit, je suis plutôt spécialiste de langue, mais comme je fais le professeur d'espagnol à tous les niveaux, j'ai été professeur en collège, au lycée et à l'université depuis plus de 40 ans, je sais à peu près ce que c'est que la rétinale, même si je dois vous dire que j'ai appris des choses en préparant donc cette conférence pour vous. J'ai du moins révisé, précisé un certain nombre d'éléments. Ce que je voudrais dire avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que cette question, ce sujet m'a paru un peu, comment dire, là, pour être plus précis, je me suis posé la question au départ, non pas de venir, parce que ça, c'est avec donc une grande joie, mais je me suis demandé, mais pourquoi traite-t-on la rétinale en 2017? On m'a dit, qu'est-ce qui motive ça? Parce que 1937, dans l'histoire de la guerre civile espagnole, c'est une année évidemment marquée par le bombardement de Guernica, dont vous savez, je vous remontrerai tout à l'heure le tableau fameux de... Est-ce que c'est moi qui fais ça?
C'est le micro.
Ah, pardon.
Je vais changer.
le tableau de Picasso, donc, qui est très fameux, hein, marque justement cet événement qui a beaucoup impressionné. Mais en même temps, bon, parler de la guerre civile, c'est plutôt parler de 1936 ou bien de 1939. Hein, mais donc 1937, je ne voyais pas très bien le lien. Et puis finalement, ce lien, eh bien, il existe, et si j'ose dire, c'est l'actualité qui nous le donne. Ce qui se passe actuellement en Espagne, c'est autre chose, mais en même temps, ça rappelle un petit peu les forces en présence lors de la République, la Deuxième République espagnole. Je ne dis pas la seconde, parce que la seconde, vous savez ce que ça veut dire, c'est en français correct, hein, quand on dit la seconde, c'est qu'il n'y en a plus. Alors c'est, en quelque sorte, insulter peut-être l'avenir que de dire que c'est la seconde. Donc j'ai l'habitude de dire la deuxième. Les rapports de force sont à peu près les mêmes. Voilà, donc je pense que les questions que nous allons aborder ont un rapport, finalement, avec l'actualité. Cette actualité qui est venue à nous sans que nous le cherchions, sans que nous l'ayons vraiment programmé. Je vais vous dire aussi deux petites choses. Il se trouve que, dans mon actualité à moi, il y a 15 jours, je co-organisais un colloque destiné aux étudiants, enfin aux doctorants de l'école doctorale, donc de lettres et de droit de mon université, et qui se tenait en partenariat avec le mémorial du camp de Rivesaltes. Nous avons fait une journée à l'université, une journée au mémorial, et sous l'intitulé de migration-circulation. Et donc nous avons abordé cette question, finalement, que nous allons traiter ce soir d'une façon, comment dire, différente, parce que bon, il y avait bon, des spécialistes de beaucoup de disciplines qui étaient conviés. Mais en fait, pour moi, cette intervention de ce soir s'inscrit dans une continuité. De la même manière que la semaine dernière, le week-end dernier, j'étais à Toulouse pour le congrès précisément de l'Association française des catalanistes que je préside, et où il a beaucoup été question de ce qui se passe aujourd'hui en Catalogne, en Espagne. Cette espèce de violence dont on ne sait pas jusqu'où elle peut aller, et qui finalement rappelle d'une certaine manière, simplement, la violence qui pouvait couver et qui, malheureusement, à l'époque, donc, s'est déployée donc, lors de la guerre civile espagnole. Autrement dit, l'actualité est quand même là. Voilà, donc je vais commencer. J'ai choisi l'intitulé « La Retirada et nous » parce que, bon, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous faire un exposé particulièrement complet sur la Retirada, mais je l'ai abordé plutôt sous l'angle de ce qu'il faut en retirer, ce en quoi ça peut nous concerner aujourd'hui. La Retirada, c'est un fait historique dont on va voir un certain nombre d'éléments, mais aussi à travers lequel on va entendre un certain nombre de voix, d'expériences. Donc rassurez-vous, je ne vais pas faire que parler, vous aurez des images, vous aurez donc des voix autres que la mienne qui vont se manifester. Et j'espère que j'arriverai à susciter votre attention sur ce thème. En tout cas, je vous remercie déjà d'être venu si nombreux. Alors, je vais m'asseoir pour manipuler de façon peut-être un peu plus fluide la machine. Voilà. Alors, d'abord, quelques repères historiques. Donc, de 1936 à 1939, c'est la guerre civile espagnole. En 1937 et 1938, déjà avant la guerre, on comptait 70 000 Espagnols réfugiés en France. Et on pensait, en 1939, les pouvoirs publics pensaient que, il en viendrait 15 000 de plus. Mais, vous savez, savez que la période était quand même assez sombre et que les préoccupations et les politiques, entre autres les politiques français, étaient assez fortes, puisque bon, hein, se déroulait tout ce que l'on sait en Italie, en Allemagne. Et donc les pouvoirs publics avaient pris le 12 novembre 1938 un décret-loi relatif à la situation et à la police des étrangers qui visait à l'internement des ce que l'on appelait des indésirables étrangers. D'une certaine manière, le terrain était préparé pour la retirada. La retirada qui donc commence avec l'ouverture de la frontière espagnole qui a lieu donc le 6 février 1939 et à ce moment-là, ce ne sont pas 15 000, mais 450 000 républicains espagnols, hommes, femmes, enfants, hein, qui passent à la frontière. Alors je vais, moi, vous parler plus spécifiquement, voilà, peut-être parce que bon, je suis perpignanais depuis longtemps, mais je crois parce que c'est aussi par là que les choses se sont passées de la manière la plus spectaculaire. Je vais essentiellement vous parler donc de la retirada du côté donc du Pertus, du côté de la côte méditerranéenne. Donc 264 000 républicains seront concentrés, c'était concentration, c'est-à-dire seront réunis dans les camps du Roussillon. Alors ces camps, ils ont pour nom Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien, Le Barcarès. Et il y aura aussi par la suite donc, le camp de Rivesaltes, et aussi dans des installations militaires telles que les forts de Collioure et de Montlouis. Alors il faut, pour se remettre un peu dans l'atmosphère de l'époque, avoir comme point de référence le fait que la population du département des Pyrénées-Orientales est de 235 000 habitants. Aujourd'hui, 470 000 à peu près, le double. Donc en fait, si vous voulez, les républicains qui sont dans les camps de concentration sont à peu près aussi nombreux que les habitants du département. Alors cette retirada, on en a beaucoup d'images, bien sûr. Donc c'est, comme on le voit ici, une longue cohorte de militaires vous le voyez, canalisés le long d'une route de montagne, ici. C'est aussi, donc, c'est le cas dans un col qui donc, est près de Collioure, près de Cervère. C'est aussi une longue litanie de camions sur lesquels se trouvent des réfugiés, vous le voyez. Au passage, vous pourrez remarquer qu'ils portent, beaucoup sont munis de couvertures. Les couvertures seront la denrée la plus recherchée par la suite dans les camps. Alors, ces photos ne sont pas sans nous rappeler d'autres photos que nous avons vues récemment. Autrement dit, c'est un phénomène qui, hélas, ne se démode pas. Et c'est ce qui devrait aussi nous donner quelques éléments de réflexion, savoir comment on regarde ces flux, qu'est-ce qu'on peut faire, quelle est la position que l'on peut avoir par rapport à ces phénomènes donc de masse qui sont plus ou moins imprévisibles et qui affluent, disons, qui déferlent sur les territoires. Alors là, c'est l'exode des Syriens, par exemple, l'exode plus récent des Rohingyas. Ils n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais en même temps, ce sont des phénomènes donc, qui massent des civils aux portes de territoires qui ne savent pas trop comment les gérer. Alors pour parler de retirada, il faut parler évidemment de la guerre civile espagnole. Rassurez-vous, je le ferai très très brièvement. Donc la guerre civile espagnole qui commence le 1er juillet 1936, et qui se termine officiellement le 1er avril 1939. Quelques cartes pour voir un petit peu comment cela se traduit au niveau territorial. Donc vous avez en rouge, vous en seriez douté, les zones républicaines, en bleu les zones dites nationales ou nationalistes, hein, c'est-à-dire les zones franquistes, si vous voulez, pour l'instant le franquisme n'est pas né. Et puis dans la première carte, donc, qui date du 12 septembre 1936, vous avez aussi des zones hachurées, qui sont des zones dans lesquelles donc, les nationalistes avancent, hein, et qu'ils finissent par conquérir. Voilà, donc vous voyez au début, hein, une proportion à peu près par moitié, et puis donc une progression étant donné, d'une part, les caractéristiques de l'armement, hein, bon, il y a un déséquilibre flagrant, et un déséquilibre aussi de l'aide internationale, et un déséquilibre aussi dans l'organisation, hein, c'est-à-dire que les armées républicaines sont des armées beaucoup moins structurées, hein, que celles des nationaux. La deuxième carte, vous voyez à peu près la progression, hein, donc des nationaux en bleu. Voilà, donc je vous l'ai dit, le bombardement de Guernica donc, intervient en 1937. On peut observer que ce bombardement se fait le 6 avril et que Picasso peint, hein, s'attelle à la peinture du tableau aussi célèbre, hein, que Las Meninas, pour ce qui est de la culture espagnole, donc dès le 26 avril 1937. Par la suite, donc, novembre 1938, vous voyez que les nationaux ont encore gagné du territoire, et c'est encore plus le cas donc, pour la dernière carte qui nous amène à mars 1939. Vous voyez que le nord-est de la péninsule, c'est-à-dire la Catalogne, n'est plus tenu par les Catalans et par les républicains, pardon. Et c'est effectivement ce qui se produit après, hein, la retirada. Mais vous voyez qu'après la retirada, restent des territoires aux mains des républicains, hein, essentiellement donc, de Valence à Almeria, et Madrid aussi, hein, qui seront les dernières positions républicaines à capituler. Alors j'ai choisi de vous illustrer un petit peu donc, cette retirada par un exemple qui est celui du poète très très célèbre Antonio Machado. Antonio Machado, donc, est né à Séville, hein, en 1875, et qui est mort à Collioure, peu de temps après son entrée en France. Donc Machado, on va le voir, est une sorte de privilégié, il bénéficie d'un certain nombre d'égards, mais vous verrez que le fait d'être exilé ramène les gens les plus célèbres à une dimension tout à fait modeste. Antonio Machado a toujours été un personnage modeste, bien que célèbre, mais sa fin, ses derniers jours, hein, qu'a raconté un de mes collègues et amis professeurs à l'université de Perpignan, maintenant retraité, Jacques Sorel, donc, a recueilli un certain nombre de témoignages pour donc constituer ce livre qui est bilingue, qui s'appelle Collioure 1939, les derniers jours donc d'Antonio Machado. Pardon. Alors je vais juste emprunter à son texte un certain nombre d'extraits, parce que vous allez voir, Machado suit en quelque sorte la retirada. Lorsqu'en juillet 1936 éclate la guerre civile, Antonio Machado réside à Madrid chez son frère José. Depuis 1931, il enseigne le français à l'Instituto Calderón de la Barca, puis à l'Instituto Cervantes. Vous voyez, on en parlait déjà. À l'automne, cédant aux pressions amicales de León Felipe et de Rafael Alberti, il consent à abandonner la capitale assiégée et bombardée par les troupes franquistes, en compagnie de sa mère, Ana Luis, de son frère José et de Matea, épouse de ce dernier. Il s'installe dans le petit village de Roquefort, près de Valence. Pendant toute l'année 1937, il écrit des poèmes et des articles dans lesquels il manifeste son attachement à la cause de l'Espagne républicaine. En avril 1938, quelques jours à peine avant que les troupes nationalistes n'atteignent la Méditerranée à Vinaros, le poète est très instamment invité par les autorités républicaines à abandonner Valence et à se réfugier à Barcelone, où il demeure avec sa famille jusqu'en janvier 1939. Malgré sa santé déclinante, malgré les privations et les rigueurs de l'hiver 1938, Il continue d'écrire d'admirables textes en prose et en vers, ne refusant aucune des nombreuses commandes qui lui sont adressées par des revues ou des journaux. Le 15 janvier 1939, le général Yagüe prend Tarragone. Le gouvernement républicain ordonne aux services officiels d'abandonner Barcelone, alors directement menacée. L'exode commence dans la confusion et le désespoir. Le 22 janvier, trois jours avant la chute de la capitale catalane, Machado et sa famille font partie d'un convoi qui se dirige vers la frontière française. Alors, je vais citer donc des témoignages. En voici un. Nous partîmes vers 11h du soir dans un véhicule fermé. Je crois que c'était une ambulance. Le voyage fut très lent et pénible jusqu'à Cervia de Terre, à 10 km au nord de Gérone, où nous arrivâmes le matin. Nous étions tous épuisés, car nous n'avions pas pu dormir ni manger. Les réfugiés attendent du 23 au 26 janvier dans un mas situé près de Cervia. Enfin, le 26 dans l'après-midi, le convoi s'ébranle à nouveau. Nouvelle halte au Mas Pacha, près de Figueras, d'où le convoi repart le lendemain. Le 27 au soir, il traverse Portbou, sous la pluie. Mais bientôt, les véhicules doivent s'arrêter. Ici, nouveau témoignage, impossible de continuer. Voilà Couillour. Voilà Machado. Impossible de continuer. Devant toutes sortes de véhicules presque encastrés les uns dans les autres, devant toutes sortes de véhicules presque encastrés les uns dans les autres, formaient un bouchon qui empêchait toute circulation. Il fallut faire un arrêt forcé, sans espoir de pouvoir continuer. La nuit tomba, alors tous les réfugiés sortirent des voitures, des camions, et se mirent à marcher sur le bord de la route. Femmes et enfants, en groupe désordonné, cheminaient, horrifiés, atterrés. Tous se pressaient dans la confusion et l'affolement, poussés par le désir d'arriver. Machado et les siens se joignent à cette foule et donc ils sont sur la route de l'exil. Enfin, ils arrivent au poste frontalier du col des Balitres, là où on a vu le convoi de camions tout à l'heure, où ils retrouvent donc un de leurs amis qui intervient auprès du commissaire de police. Je lui dis, c'est l'ami de Machado qui parle, je lui dis qu'Antonio Machado était à l'Espagne ce que Paul Valéry était à la France, et qu'il était malade et comme sa mère incapable de continuer à pied. Je lui demandais de leur permettre de rester près du bon feu de bois qui brûlait dans la cheminée, tandis que nos amis, mes amis et moi, descendons à Cervère chercher une voiture. Le commissaire me répondit qu'il n'était pas nécessaire de nous déranger, car il mettrait son automobile à notre disposition, ce qu'il fit. Donc, dans l'opération, Machado et sa famille perdent leur bagage et, transis, exténués, ils passent cette première nuit en terre française dans un wagon oublié sur une voie de garage en gare de Cervère. Le lendemain, 28 janvier, les Machado prennent le train jusqu'à Colombes. Et ils sont accueillis par le chef de gare adjoint, qui témoignera par la suite de sa surprise lorsqu'il apprendra que ces personnages-là sont autour de Antonio Machado. Antonio Machado, dont il a appris un certain nombre de textes dans ses cours du soir d'espagnol à Perpignan. Machado pouvait à peine marcher, sa mère moins encore. Pepe, c'est-à-dire son frère José, aidait Antonio à marcher, et moi, je crus préférable de prendre leur mère dans mes bras. Elle était légère comme une petite fille. Tandis que je la portais, elle me demandait à l'oreille, « Nous arrivons bientôt à Séville. » Au bas de l'avenue de la gare se trouve une petite place avec des platanes, la placette séparée de l'hôtel Quintana par le Douy, ruisseau généralement à sec. De l'autre côté de la place, quelques commerces, dont la bonneterie mercerie de Juliette Figuère. Elle témoigne. Il faisait froid, il pleuvait. J'étais sur le pas de la porte. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient entrer se reposer un petit moment. Je leur ai dit que oui. Je les ai fait asseoir. Je leur ai offert du café au lait pour se ranimer un tout petit peu. La maman était très fatiguée. Elle ne pouvait rien dire tellement elle avait la bouche sèche. On l'a portée. Elle ne pouvait plus marcher. L'hôtel, je lui dis, vous l'avez en face, mais comme la rivière coulait, c'est un orage méditerranéen, on n'a pas pu passer par le quai. Il fallait faire le tour par le cimetière. Mon mari lui a dit, allez voir le garagiste s'il veut venir vous chercher. Une demi-heure, ils sont restés chez moi, et jusqu'à aller à l'hôtel. Donc à l'hôtel, ils sont accueillis par Madame Quintana, qui, ayant affaire à des réfugiés, fait tout son possible pour être à leur service. À l'hôtel, un simple hôtel, hein, Machado sort peu de sa chambre. Fatigué, miné par la maladie qui va l'emporter, il est atteint de tuberculose, hein, en fait. Il ne descend que pour manger et quelquefois pour faire en compagnie de José une brève promenade. Le dénuement dans lequel il se trouve, les Machado à leur entrée en France est total. Ils ont donc abandonné leur bagage et ils se retrouvent, comme on dit en espagnol, con lo puesto, c'est-à-dire avec les habits qu'ils portent simplement. Et donc nous avons un témoignage intéressant à ce sujet. Un jour, José, le frère, donc, m'a dit « Mon frère ne peut pas descendre ». Je lui ai dit « Pourquoi vous ne descendez pas tous ensemble manger ?» Il m'a répondu « Parce que nous n'avons pas de chemise de rechange. » Le jour où l'un de nous deux lave sa chemise, il attend que l'autre termine son repas et remonte pour descendre à son tour. C'était tantôt José qui restait en haut, tantôt c'était Anthony. Je lui ai dit « Si vous voulez accepter une chemise, je vais vous donner une chemise pour chacun. » Il m'a dit « Je n'ose pas, vous savez, on avait beaucoup d'argent et maintenant il ne vaut rien. » Donc, voyez dans quel état il se trouve. Machado, un jour, n'est pas descendu manger. Et Madame Quintana s'en est inquiétée. Le lendemain matin, la femme de José vient taper à la maison de Juliette Figuère. À 6h30 du matin, elle lui dit « Mon beau-frère est très malade. Est-ce qu'on pourrait avoir un docteur ?» C'est Juliette Figuère qui parle. Je lui dis « Écoutez, je vais vous accompagner chez M. Casabène. C'est notre docteur et il viendra. » Nous sommes allés tous les deux le chercher, et il y est allé tout de suite. Il a dit que c'était grave. Il nous a dit même par la suite qu'il n'y avait rien à faire. Antonio Machado meurt le 22 avril 1939. Ah, je ne suis pas. Alors, en 1939, à 3h30 de l'après-midi, vous avez donc sur la photo de gauche la chambre de l'hôtel Quintana où il est mort. Quand Antonio expira, comme la chambre était petite, il fallut faire passer son cadavre au-dessus du lit où Mama Anna reposait inconsciente. Le corps d'Antonio fut exposé dans une autre chambre, enveloppé dans un drap, selon le désir de José, qui se faisait ainsi l'interprète d'une phrase prononcée un jour par Antonio à propos des pompes inutiles de certains enterrements. Pour enterrer un homme, il suffit de l'envelopper dans un drap. Voilà, donc vous avez ici la plaque, vous aviez donc précédemment la tombe de Machado qui est au cimetière de Collioure, et vous avez la plaque qui est ici, et qui dit en fait que c'est une métaphore, comme si la vie était une sorte de bateau, et il se retrouve à la fin, donc, le bagage léger, presque nu, hein, comme les enfants de la mer. Vous voyez, Collioure, c'est un lieu vraiment de rêve, hein, un lieu de villégiature, et bon, le drame de Machado s'est noué à Collioure. Vous avez vu que tout le monde a été plein de sollicitude pour Machado, ce qui ne l'a pas empêché de décliner et de disparaître. Mais cela n'a pas été le lot de tous. Et nous devons voir comment ces réfugiés ont pu être accueillis, comment ils ont été conduits dans les camps. Alors voici une carte des camps édifiés en zone libre. Et moi je m'intéresserai uniquement à ceux qui sont au centre et en bas, c'est-à-dire Collioure, pas trop, mais surtout Argelès, Saint-Cyprien, un peu le Barcarès et un peu Rivesaltes aussi. Voilà. Alors, donc, la Retirada suscite évidemment l'émoi des habitants du territoire des Pyrénées-Orientales et la presse s'en fait l'écho. Je suppose que vous pouvez voir à travers cette une de l'organe de presse local, hein, l'indépendant, qui est l'équivalent de la dépêche pour les Perpignanais, donc qui est daté du 7 février, c'est-à-dire du lendemain de l'ouverture de la frontière. Une autre coupure de presse, alors vous voyez que les réfugiés arrivent par à la fois à pied, en camion, Ils arrivent en train et certains arrivent même donc par bateau à Port-Vendres. Donc c'est un afflux de réfugiés qui tombent sur le territoire. Alors face à cela, donc, les autorités ont du mal à organiser l'accueil et ils sont tout bonnement dépassés. Regardez la Une de l'Indépendance, 6 jours, 45 000 réfugiés donc, sont entrés. Et donc il y a aussi un petit article sur ce qui se passe donc, dans le premier camp qui a été créé, donc le camp de concentration d'Argelès-sur-Mer. Nous allons en reparler. Ce qui m'a intéressé la Une de l'Indépendance, c'est l'expression « les devoirs d'humanité ont été observés dans le cadre de la sécurité de notre pays ». Bon, alors d'un côté, l'accueil humanitaire, disons, est un devoir. En même temps, donc, on a le souci de la sécurité. Rappelez-vous le texte dont je vous ai parlé tout à l'heure de 1938. On se méfie des nouveaux venus, on se méfie de ces anarchistes, de ces révolutionnaires. Voilà, vous imaginez toutes les représentations qu'il peut y avoir derrière, et donc en même temps ils arrivent en masse, on ne sait pas comment les accueillir, comment les traiter. Alors on a de cet accueil des témoignages parfois contradictoires. Le premier, le voici. Une patrouille avec un officier nous arrêta et nous dit qu'il avait ordre de récupérer et de concentrer tous les étrangers munis de papiers provisoires, et c'était notre cas. Les papiers à la main, il finit par nous parler en catalan. Il était de Roussillon. Donc ce sont des réfugiés catalans qui sont là. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire « Ah, nous sommes bien malheureux, nous les catalans, de devoir nous arrêter les uns les autres sous des drapeaux qui ne sont pas les nôtres. Foutez-moi le camp, je ne vous ai pas vu. » Donc, ils seront saufs et ils éviteront d'aller dans le camp. Pour éviter d'aller dans un camp aussi, Alexandre Sirici, qui est aussi catalan, conseiller du commissariat à l'éducation physique et au sport de la Généralitat, décline sa qualité donc aux gardes qu'il rencontre, et il déclare aux gendarmes qu'il arrête à Place de Moyo, donc à la frontière, à la montagne, qu'il a aussi de la famille en France et que, bon, on pourrait peut-être le traiter différemment. Le gendarme lui répond « Que vous soyez Pierre ou Paul, vous devez tous être traités pareil. » Du pont jusqu'à la porte du jardin de l'école, tout le cordon de gendarmes faisait des gestes avec les bras, comme pour nous pousser et nous dire « Allez, 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 allez ». Alors c'est une chanson, ce « Allez, allez », on l'a, c'est devenu la phrase en quelque sorte fétiche culte de cette retirada et du traitement qu'ont subi donc les exilés espagnols. Une chanson qui s'appelle « Somos los tristes refugiados »,« Nous sommes les tristes réfugiés », etc. Et dans le couplet, il y a « Allez, allez », c'est-à-dire bon, « Allez dégager, rentrez dans les camps, rentrez dans l'ordre ». C'est ainsi que nous sommes entrés au camp de concentration. Un témoignage d'une dame qui, sur le tard, s'est remise aux études et qui est encore mon étudiante, voilà, mais qui, à l'époque, était très jeune et qui vivait à Place de Moyo, le poste frontière, donc, dans le Vallespir, dans la haute vallée de la rivière Tech, dont je vous ai parlé. Et voici ses souvenirs. Lorsque les Espagnols sont arrivés, j'étais très petite. Mes parents s'occupaient du café du village. Comme les autres habitants, ils ont tout mis en œuvre pour essayer d'apporter un petit quelque chose à ces malheureux qui mouraient de froid et de faim. Pendant des jours entiers, maman a fait des centaines de litres de café que mes tantes et cousines distribuaient aux réfugiés. Elle avait fabriqué également quelques pains réservés aux plus petits. À seulement 5 ans, j'ai été choqué par le malheur des mamans qui ne pouvaient rien faire pour consoler leurs petits qui hurlaient de faim. Il n'y avait plus de lait pour les bébés. Je garde dans ma mémoire le visage de ces petits-enfants avec lesquels je jouais, je partageais tout, et qui m'ont transmis aussi la dysenterie. Les plus grands avaient construit une balançoire pour les enfants et passaient de longs moments à me balancer. Donc, vous voyez, des sentiments mêlés, mitigés, voilà, mais en tout cas, un impact donc, durable de cette arrivée des exilés donc, à Place Royale. Les camps donc sont improvisés d'abord sur les plages qui constituent donc des lieux vides. Celui d'Argelès-sur-Mer sera tristement célèbre parce que c'est le premier en date et c'est celui dans lequel, disons, l'inorganisation a été la plus flagrante. Vous voyez ici donc deux images hein, des exilés qui sont donc regroupés, surveillés, assis en rang hein, par terre. Et donc qui se trouve derrière les barbelés parce que la première opération hein, a consisté à fermer hein, sur trois côtés un territoire. Alors ce territoire, donc, c'est un territoire concernant le camp d'Argelès de 100 hectares. Au début, il était prévu un camp de 50 hectares, il a fallu le doubler. Et 240 000 occupants y sont passés. Pas tous en même temps, mais au même moment, aux premières périodes, c'est-à-dire en février 1939, ils sont tout de même 80 000 dedans. Vous imaginez 80 000 personnes parquées. C'est d'abord seulement la plage, donc avec, c'est l'hiver, hein, donc le sable, le vent, hein, aucune infrastructure, hein, donc pas de sanitaire, etc., pas d'abri. Et arrive aussi sur cette plage, les camions que nous avons vus tout à l'heure hein, passer la frontière, et évidemment, dans le sable, ben, les camions restent. Et il faudra les dégager beaucoup plus tard. Le camp est divisé en deux zones, hein, deux zones militaires, donc pour les soldats, hein, qui ont, donc les soldats républicains, et une zone civile pour les hommes civils hein, et les familles. Donc les nécessités logistiques, vous vous en doutez, sont imprévues. Et des Sénégalais sont appelés à garder les républicains. Et bon, d'après les témoignages que nous avons, dont nous pouvons disposer, ils se signalent par des comportements brutaux et en particulier de nombreux viols qui font qu'ils devront être donc remplacés. Vous voyez ici donc comment les vêtements sont regroupés hein, voilà, sur le sable et comment donc on peut faire du tourisme en plein mois de février, donc sur la plage. Évidemment, le tourisme ironique dans ma bouche. Vous voyez aussi que donc les réfugiés hein, sont à même le sable sans quoi que ce soit pour les accueillir. Et puis petit à petit se mettent en place donc, des baraques, comme vous le voyez. Nous avons ici de nouveau un témoignage intéressant sur l'image, sur l'image que donne la France, disons, aux réfugiés. C'est ici donc Alexandre Sirici qui est un intellectuel hein, et qui va prendre la parole en disant la France, avant, vue à travers la culture, était le pays du raffinement, de l'intelligence, de la sensualité, de la liberté. Mais maintenant, aux yeux d'un pauvre réfugié, elle était ce camp de concentration, la misère, la faim, le froid et la lointaine indifférence des puissants. Donc un effet de contraste saisissant entre l'idée hein, que l'on se faisait de la France, et surtout pour les plus cultivés, hein, les plus francophiles, disons, dont Sirici était, et donc la réalité quotidienne qui leur était infligée. Un autre hein, personnage officiel, Maurici Serrahima, donc catalan, vient d'arriver par bateau à Port-Vendres. Nous avons dit au patron de l'auberge que nous venions d'arriver de Barcelone avec l'ambassade de France. Nous lui avons montré des documents. Nous n'avons pas un sou. Si vous aviez confiance en nous, vous nous laisseriez envoyer des télégrammes. Et demain, nous aurons des francs de reste pour vous payer avec le repas, pour si peu qu'il soit, et un lit où dormir. Cet homme nous regarda calmement et avec un sourire, il nous dit « Fugitif ? Oui. Envoyez tous les télégrammes que vous voulez. » Et je vais vous faire préparer un repas et des lits. L'affaire est réglée. Et donc, Serrahima m'a dit par ailleurs qu'il n'a pas pu voir cet homme parce que c'était la nuit et que le seul son de sa voix des années plus tard, enfin, au seul son de sa voix des années plus tard, il le reconnaîtrait tant il avait de gratitude pour lui, pour ce qu'il avait fait ce soir. Voilà, donc une image des camps hein, avec donc des baraquements en toile ou autre. Le camp de Saint-Cyprien est le camp qui est créé un peu au sud d'Argelès, pardon, au nord d'Argelès, excusez-moi, pour désengorger le camp d'Argelès. Vous voyez à peu près les lieux, hein, et ce que l'on choisit, c'est une zone que l'on appelle l'Aïwal, c'est-à-dire en fait une zone plus ou moins, enfin de sable, mais plus ou moins marécageuse, hein, pour donc y faire séjourner les exilés. Donc ce camp de 184 hectares donc, est aménagé le 4 février, le début. Le 8 février, il accueille les premiers réfugiés espagnols. En mars, hein, il y en aura 90 000. Le 1er juillet, donc, on arrive à ordonner tout cela et 649 bâtiments de planches, complètement disparates, mais donc composés de baraques qui peuvent, pour certaines, vous allez le voir, plus solides, hein, contenir jusqu'à 60 détenus sur 150 mètres carrés. Imaginez 60 personnes sur 150 mètres carrés. Vous voyez à peu près la surface utile pour chacun. Donc, mais évidemment, c'est mieux que de dormir dehors. En janvier 1940, le camp est vide et fin 1940, le camp va resservir, mais cette fois-ci, à la déportation de Juifs. Ils seront 4419 à y passer. En octobre 1940, le camp va donc être fermé à la fin du mois suite aux inondations catastrophiques qui ont frappé tout le Roussillon. Vous voyez à peu près donc, les conditions. Hein. Et voyez aussi comment donc, les plans des baraques dont je vous ai parlé, 250 mètres carrés, et la manière dont on les a plantés. Et donc, pour que les choses aient l'air tout à fait confortables, vous pouvez voir donc, sur la photo de droite l'Arc de Triomphe qui est érigé hein, donc, à l'entrée du camp de Saint-Cyprien. Tout se passe comme si hein, c'était bienvenu au club. Dans les baraques en bois, couchés sur des paillasses et entassés les uns sur les autres, nous étions quand même mieux qu'à la Belle Étoile. Mais il n'y avait aucune hygiène. Nous avons attrapé des poux. Ma sœur Thérèse a eu des furoncles sur tout le corps. Colette a attrapé la diphtérie. J'ai eu un très mauvais souvenir de la nourriture, nous dit José Valier. En 1940, j'étais interné à Argelès-sur-Mer avec maman. Dans ce camp, les hommes et les femmes étaient séparés. Dans le camp des femmes, Nous avions fait la connaissance d'une jeune femme enceinte que maman essayait d'encourager. Une après-midi, que l'on somnolait par manque de nourriture, nous avons entendu un cri terrible. Maman a compris que la jeune femme était en train d'accoucher. Nous sommes allés l'aider. Je n'étais qu'une enfant et je ne comprenais pas ce qui arrivait à cette pauvre femme. Entre deux cris, nous avons entendu du chahut dehors. C'était le père du petit garçon qui allait naître, qui essayait de rejoindre sa femme. Alors, un garde sénégalais qui s'approchait, sans demander quoi que ce soit, a pris son fusil et tué le père du petit garçon qui arrivait dans ce monde en même moment. Ce passage de ma vie hante depuis toute mon existence. Je ne parlerai guère du camp du Barcarès. Hein, bon, le camp du Barcarès, vous en avez une image donc, sur la droite. Vous hein, voyez que ce sont des baraquements donc, en bois. Et l'image de gauche, qui n'est pas celle du Barcarès, est une image très célèbre parce que c'est une image des brigades internationales qui arrivaient, hein, plus précisément, sur Argelès. Et c'est une photographie qui est signée Robert Capa, hein, photographe de guerre. Et vous savez que ces photographies de la guerre civile et de la Retirada sont très très célèbres. Je vais vous parler maintenant de notre camp qui est, lui, inscrit dans la durée. Les autres camps donc, ont été éphémères. Hein. Ils ont d'abord servi aux Espagnols, puis ils ont été, la plupart du temps, recyclés, disons, à un accueil des Juifs. Hein. Et celui de Rivesaltes a eu la vie longue, puisqu'il a été créé en 1939, et donc il a servi jusque dans les années 60. Alors, quelques repères sur le camp de Rivesaltes. Donc c'est le camp militaire Joffre. Je vous rappelle que le maréchal Joffre est natif de Rivesaltes, donc c'était pour honorer sa mémoire hein, qu'on avait baptisé ainsi le camp, 615 hectares. Mais la rigueur du climat fait renoncer à y installer des écuries. Parce que ce sont des étendues pierreuses, l'été il y fait très chaud, l'hiver très froid, parce que la tramontagne y prend beaucoup de vitesse et glace. Quand on y va aujourd'hui encore, on est assez saisi. En 1940, donc, 1000 Espagnols sont internés en tant que compagnie de travailleurs étrangers. Le 10 décembre 1940, ces compagnies effectuent des travaux d'aménagement pour l'accueil de civils qui proviennent des camps de la côte qui sont engorgés. Donc, en fait, on cherche de la place, toujours de la place. Le 14 janvier 1941, arrivent les premières familles espagnoles. Et donc, ils sont 6475 à être hébergés à la date du 31 mai 1941. Puis, donc, ce seront des Juifs, 5000, entre août et novembre 1942. Le 11 août 1942, part du camp de Réusat le premier convoi pour Drancy et au-delà de Drancy, Auschwitz. Réusat est considéré par bon nombre d'historiens, dont Larsen, comme étant le véritable Drancy de la zone libre. Il accueillera, si on peut dire, 17 500 internés, donc entre 1940 et 1942, dont 53% d'Espagnols, 40% de Juifs et 7% de Tziganes. En novembre 1942, le camp est récupéré par l'armée allemande et retrouve sa vocation militaire. Alors ici, vous avez donc deux photographies qui illustrent l'extérieur, donc, et avec les baraquements, hein, vous voyez, qui sont regroupés en îlots, enfin tout cela est très géométrique, et vous voyez le confort relatif qu'il peut y avoir à l'intérieur des baraquements. Voici une autre vue donc, des baraquements au moment où on commence à les démonter, et vous voyez qu'il y a un baraquement ici, à droite, donc, qui est intitulé « Secours aux enfants » parce que le camp de Réusat va servir aussi de camp, sanitaire, en quelque sorte, par rapport aux autres camps. En septembre 1944, le camp de Réusat abritera des collaborateurs, des gens qui ont été dénoncés pour avoir pratiqué le marché noir. En avril 1945, ce seront des prisonniers de guerre allemands, autrichiens et italiens qui y seront enfermés. Début 1948, il redevient un camp militaire. Et ce n'est que dans l'année 62, à partir de l'année 62, qu'il est de nouveau réutilisé, d'abord pour accueillir des prisonniers du FLN, donc c'est la guerre d'Algérie, et puis donc comme camp de transit pour des harkis. Ils seront 21 000 à passer par là. Et cette période donc, de fonctionnement du camp de Réusat se termine en décembre 1964. Alors voyez ce qu'il en reste aujourd'hui à travers ces deux photographies. Il reste un certain nombre de baraquements, mais la plupart, disons, sont en très mauvais état. Et voyez donc le paysage. Alors voilà une vue aérienne de ce qu'est le paysage dans lequel se situe le camp de Réusat. Vous voyez, enfin, on distingue les emplacements des baraquements. Vous voyez que donc, les énergies nouvelles sont apparues et à côté, il y a une zone industrielle, en particulier avec de grands parcs à voitures. Et vous voyez en bas au milieu une sorte de parallélépipède là qui n'est autre que le mémorial donc du camp de Réusat qui vient d'être inauguré il y a quelques années. Vous voyez deux vues pas très bonnes de l'intérieur et de l'extérieur. Voilà. Alors c'est un bâtiment qui est extrêmement austère, on ne le voit pas, il est pratiquement enterré, il est en béton brun et donc il entend perpétuer donc, la mémoire de ce camp qui donc, a accueilli finalement la souffrance humaine sous toutes ses formes et quelles que soient donc, les origines et les confessions. Et donc, à partir de là, ce qui importe, c'est de perpétuer la mémoire de ces souffrances, de ces expériences-là. Il s'agit pour cela de libérer la parole, de transmettre donc l'expérience de l'exil, de la souffrance et de l'enfermement. Un témoignage, par exemple. Parce que pour témoigner, encore faut-il parler. Et encore faut-il pouvoir parler. Au moment du départ en exil, j'avais 5 ans. J'étais complètement traumatisé après une guerre de 3 ans et un terrible bombardement que j'avais subi quelques jours auparavant. J'étais dans un état de choc et je suppose que, d'une façon inconsciente, j'ai pris la décision de faire un jeu de silence. Je voulais oublier pour me donner l'illusion que rien ne s'était passé. Ce fut une grave erreur, parce que malgré tous mes efforts, je n'ai pas pu oublier. Je me souviens de tout. Après la défaite, j'ai été une petite fille vaincue dans une guerre qui n'était pas la mienne. Nous, les enfants, nous n'avons jamais déclaré la guerre. Nous sommes les victimes innocentes des conflits d'adultes. L'enfance est une époque déterminante dans la vie d'une personne. Et mon enfance, on me l'a volée. Alors, ces fils et filles donc, de réfugiés hein, se sont organisés, parfois en association, donc l'association que l'on a coutume d'appeler FRI, évidemment avec les initiales, vous comprenez pourquoi, et aussi c'est un jeu de mots avec le mot anglais qui veut dire libre. Hein, voilà. Donc ce sont les fils et filles de républicains et enfants de l'exode qui se réunissent, qui donc ont un certain nombre d'activités, sont destinés à faire honneur à la mémoire. Et alors il faut dire qu'un certain nombre de lieux de mémoire se sont développés, hein, donc le mémorial de Rivesaltes dont je parlais, il existe un mémorial aussi à Argelès-sur-Mer, il existe aussi donc, côté catalan sud ce qu'on appelle le Moumet, hein, qui est aussi un lieu de mémoire, et il y a donc des assemblées et des recherches de témoignages partout. Alors il y a aussi de la reconnaissance qui s'exprime à cette occasion. Si j'ai pu mener une vie de famille pendant mon enfance, c'est grâce à l'humanité des civils français, vous remarquerez les civils mais pas les militaires, qui ont aidé mon père à obtenir un travail et à quitter le camp de concentration dans lequel il était interné, seulement parce qu'il avait commis le crime de fuir l'Espagne de Franco. Mais aussi parce qu'ils ont aidé ma mère, accompagnée de ses deux enfants, dont elle, à entrer en France en cachette et à rejoindre mon père. À ma majorité, je suis devenue française et syndicaliste avec une grande fierté. La nationalité française me permettait de me sentir membre d'une communauté juste, humaine, égalitaire et sensible à tous nos malheurs, nous dit Asunción. Il y a aussi la Fondation Antonio Machado, qui célèbre tous les ans l'anniversaire de la mort d'Antonio Machado. Ici, vous voyez la cérémonie qui a lieu tous les ans au cimetière, donc sur la tombe de Machado, en présence d'autorités françaises, espagnoles. Ici, vous avez la présidente de la Fondation Antonio Machado, celui qui était donc député-maire de Collioure, qui actuellement est premier vice-président du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales, plus donc des représentants des villes espagnoles par lesquelles Machado est passé. La Fondation Machado, c'est aussi l'attribution de prix, d'un prix international de littérature, tous les ans. Par exemple, voici celui qui a été décerné il y a 2 ans. Alors, bon, il suffit pour concourir, on peut concourir en français, en catalan ou en espagnol. La plupart des manuscrits reçus sont en espagnol. Et ici, donc, c'est une interprétation, en fait, à sa façon, par un jeune auteur, qui est aussi un journaliste espagnol des Asturies, Miguel Barrero, de l'agonie de Machado, sous le titre Camposanto en Collioure, c'est-à-dire cimetière à Collioure. Voilà. Il y a aussi, ce qui est assez intéressant, des prix qui sont attribués aux lycéens et aux collégiens qui font des travaux donc, sur la mémoire d'Antonio Machado. Une chose aussi peut-être qui vous intéressera, c'est qu'il existe à côté de la tombe de Machado une boîte aux lettres qui est levée de temps à autre. Et donc les gens qui passent par le cimetière de Collioure écrivent à Machado. Et ça a donné lieu à des travaux de recherche très intéressants qui montrent à la fois la proximité de ces événements, la proximité aussi avec un poète qui s'est distingué par beaucoup de générosité. C'était un enseignant généreux, c'était un républicain généreux. Donc d'autres manifestations ou signaux qui nous montrent que la mémoire est entretenue. Donc, vous voyez par exemple Caminos, Camins, chemin de la retirada. Et donc, le fait que le cimetière des Espagnols est, comment dire, régulièrement entretenu hein, sur la zone, sur une zone de la plage d'Argelès. Mais au bilan, Louise nous envoie un message qui me semble devoir nous donner à réfléchir. Ce qui me désole le plus est de savoir qu'encore actuellement, des actes comme celui que j'ai vécu en 1939 arrivent tous les jours, dans de multiples coins du monde, où des milliers d'enfants connaissent la cruauté de la guerre, les camps de concentration des enfants qui auront une vie d'adulte similaire à la mienne. Vous voyez, bon, d'autres événements hein, qui sont... Et puis, alors, je ne voulais pas terminer cet exposé sans vous présenter donc la maternité suisse d'Elne. Alors, c'est un édifice, c'était une maison bourgeoise. En fait, c'était une maison qui appartenait, on appelle ça le Castel de Bardou. Bardou donc, était le propriétaire et le fondateur des papiers Job, des papiers à cigarettes Job. C'était une fortune perpignanaise. Donc, et il se trouve que dans une des nombreuses résidences qu'ils avaient autour de Perpignan, elle s'est installée à l'initiative d'une Suissesse qui s'appelait Elisabeth Heinendens, donc une maternité pour accueillir donc, les femmes enceintes. Et vous voyez donc qu'entre décembre 1939 et juin 1944, 600 enfants de 10 nationalités y sont nés. J'ai par exemple un collègue et ami qui a été professeur d'espagnol, on se demande bien pourquoi, qui donc est né là. Et bon, évidemment, il a contribué à faire en sorte que ce lieu de mémoire soit comment dire, réhabilité. Et il est inscrit actuellement au monument historique. Alors donc, non seulement 600 enfants y sont nés, mais 1000 enfants et grand-mères provenant des camps donc, y ont été soignés. Elisabeth Heinendens donc, a fait, pas toute seule, hein, mais elle a coordonné une œuvre, disons, absolument remarquable et qui mérite donc notre respect et le souvenir. Je terminerai en posant cette question. L'histoire ne serait-elle qu'un éternel recommencement? Vous voyez donc d'un côté là, des images de la retirada, des images donc de la Méditerranée qui sont hein, tout à fait quotidiennes. Et que faire? Voilà, donc je vous présente quelques sources à partir desquelles j'ai travaillé. Donc vous avez un ouvrage qui est une thèse fondamentale, Plage d'exil des camps de réfugiés espagnols 1939, qui date donc du cinquantenaire hein, de la retirada. Un ouvrage aussi de Pierre Milza et Denis Puchinski, enfin dirigé par eux, Exil et migration italien et espagnol en France 1838-1946. Geneviève Dreyfus-Armand, qui est une grande spécialiste donc, de la République et de l'exil républicain, donc avec un ouvrage. Bon, elle a été conservatrice de la bibliothèque de documentation et de l'histoire contemporaine qui est sur le campus de l'Université de Nanterre, voilà, où sont amassés énormément de documents. Donc le livre de mon collègue et ami Jacques Sorel, connu en 1939, qui est fondamental. Et puis donc, un ouvrage que je voulais signaler aussi, c'est une de nos étudiantes, Sophia Medinilla, qui a fait beaucoup de travaux de collectage, hein, de souvenirs hein, des émigrés, des exilés. Bon, la thèse n'était pas très très bonne, mais la documentation qu'elle contient est très très précieuse, et d'ailleurs, un certain nombre, et non les moindres, de documents, enfin de témoignages que je vous ai lus proviennent de cet ouvrage. Bon, par exemple, en Catalogne Sud aussi, on s'y intéresse. Natalia Carbonell a fait une thèse qui s'appelle Les anonymes hein, de l'exil républicain aussi, qui sont une série de témoignages. Un article intéressant aussi, dont j'ai tiré quelques témoignages de mon collègue de l'Université de Gérone, Narcisse Iglesias. Et puis, alors, deux films. deux films qui illustrent très bien ce dont nous avons parlé. D'un côté, ce sur quoi j'ai terminé, La maternité d'elle, donc un film de Frédéric Goldbronn qui date de 2002, qui a été rediffusé il y a peu sur Arte, je crois. Et puis un film de Philippe Soulet, qui est en catalan, mais qui retrace de manière absolument remarquable. C'est un film qui est fait à partir de documents d'archives, plus une mise en scène, en quelque sorte, qui sert de film conducteur. Donc, Camp d'Argelès, de 2010. Alors, les deux sont accessibles sur YouTube, donc vous pouvez les regarder de chez vous. Et je pense que vous apprendrez beaucoup, et sans doute davantage que ce que j'ai pu vous dire ce soir. Je vous remercie de votre attention, ça aura été un grand plaisir d'être avec vous. Alors, ce que je dirais pour conclure, c'est qu'au fond, à chacun de nous de rester à l'éveil et de faire son possible, comme l'ont fait un certain nombre de gens dont on a témoigné aujourd'hui. Je vous remercie.
Ça y est.
On va passer aux questions, mais avant de passer aux questions, je vais réparer un oubli du début de séance. J'ai oublié de mentionner que c'est grâce à Histoire et Tradition de Carbone et à l'action de Christian Lacombe et de Nelly Guyure que Christian Lagarde est venu avec nous. Voilà. Cet oubli corrigé, toutes mes excuses. Après les questions, on présentera tout l'ensemble d'événements qui a été préparé par Histoire et Tradition, exposition, film, etc. Mais maintenant, on va passer aux questions. Et j'ai un micro que je vais balader pour vous.
Simplement un témoignage. Je suis une de ces voyageurs d'Océan Hispanique, et la plupart des réfugiés, du moins dans les années 44, se sont engagés dans l'armée Leclerc. Et quand le capitaine Drogue a eu l'ordre de Leclerc d'aller délivrer Paris, eh bien, les chars s'appelaient Teruel, Brunette, Barcelone, Lemon, et j'en passe. Donc ces gens ont contribué, si vous voulez, à refouler l'hydre nazi dans son antre. Merci.
Oui, parce que souvent, après cette guerre-là, ils annonçaient une
autre. Ah oui.
La nôtre.
Ah, el señor Barrios. Oui, je vous ai bien écouté les souffrances qu'ils ont fait à Argelès et tout ça, mais quelqu'un comme mon père, il a continué, il a été en plus déporté, condamné à mort en Allemagne, à Mauthausen.
C'est bien ce que nous disions, c'est que après la première guerre, c'est-à-dire cette guerre qu'ils avaient perdue, hein, ils se sont engagés au vu de leurs convictions, qui avaient été raffermies par l'épreuve, hein, donc aux côtés des Français, des Alliés, hein, pour combattre les mêmes forces qu'ils avaient combattues en Espagne. Et je pense qu'on ne peut que saluer cet héroïsme, hein, dont beaucoup ne sont pas revenus d'ailleurs.
Oui, ce n'est peut-être pas votre secteur de recherche, hein, ma question, hein, donc sans gêne, hein, bien sûr. Mais j'ai été étonnée que vous n'abordiez pas du tout les conditions politiques françaises de 36-39. Comment se fait-il? Pourquoi?
Bon, alors, si vous voulez, mon problème était de savoir comment cerner mon affaire. Et j'ai essayé de le faire de manière la plus concentrée possible, et ce que je voulais faire, c'était présenter ce qu'était une rétinale et comment on pouvait avoir réagi à la rétinale. Hein, voilà. Alors évidemment, j'ai oublié un peu volontairement de dire pourquoi les choses s'étaient passées ainsi, c'est-à-dire cet état d'impréparation que nous avons vu. C'était un état qui, au fond, correspondait à l'indécision de la politique à la fois de la France et de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni. D'un côté, vous aviez des pays qui étaient, eux, très déterminés, et à côté de cela, donc, des pays démocratiques qui hésitaient à s'engager, comme on le fait parfois. C'est-à-dire que quand on est dans des circonstances aussi graves, eh bien, on hésite à entraîner le pays dans le conflit. Et en fait, je pense que, je le dis très sommairement, mais c'est en fait un excès, je dirais entre parenthèses, a posteriori coupable, je referme ma parenthèse, de prudence qui a amené la France finalement à secourir en dernière minute et de manière désordonnée et peut-être pas finalement très correcte, vous l'avez vu. Ces gens-là qui avaient besoin d'elle et qui, au fond, étant républicains, se réclamaient des mêmes idéaux. C'est ça aussi le paradoxe, c'est-à-dire que les gens qui sont venus d'Espagne étaient des républicains et la France était une république. Donc en fait, les idéaux étaient partagés et on aurait dû aller au-devant d'eux parce qu'on était censé partager justement beaucoup avec eux contre finalement le même ennemi. Je ne sais pas si ma réponse vous satisfait, mais je n'irai pas plus avant. C'est surtout pour justifier d'une certaine façon ou éclairer l'état d'esprit des autorités françaises. Voilà.
Vous savez que
ça reste un mystère, mais ça reste un sentiment d'incompréhension. Oui. Oui, mais. Oui. Non, mais si vous voulez, c'est le genre de choses, vous savez, qui arrivent tous les jours. C'est pour ça aussi que je vous ai mis quelques diapos actuels. Que faisons-nous ? Autrement dit, nous sommes le plus souvent dans notre petit confort, à nous dire « Oh, les pauvres », etc. Et finalement, c'était un peu la même chose qui se passait à ce moment-là. Autrement dit, coupable ou pas coupable, c'est une question qui se pose à nous. En tout cas, je pense que chacun était dans sa vie. Mais les responsables de l'État hésitaient dans un interventionnisme qui aurait été fait, évidemment, un engagement dans la guerre, il n'en était pas dupe. Et donc, je crois que c'est la raison pour laquelle ils ont temporisé et subi en quelque sorte.
Attendez, il y a une question qui est ici, là, après, oups, après à vous, monsieur.
Alors, je ne suis pas d'accord sur le fait que les pays démocratiques ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Depuis 1930, si on lit un ouvrage qui a été écrit par une normalienne qui s'appelle Annie Lacroix-Ritz, Le choix de la défaite. En 1930, toutes les grandes familles, tous les banquiers et tout, ont décidé, en fonction de ce qui venait de se passer en Russie, de se prémunir contre le danger du communisme. Et donc, le mot d'ordre, c'était plutôt ce qu'a. Plus tard, c'est devenu plutôt Hitler que le Front Populaire. Et le Front Populaire a aggravé les choses vis-à-vis de ces gens-là. C'est là que s'est créée la cagoule et qui a été financée par toutes ces grandes familles, par tous les grands industriels. Peugeot, Michelin, etc., Citroën, Renault, tous. Ils ont tous financé. Et elle fournit les preuves dans ce ouvrage. Ensuite, je voulais dire, ça m'échappe, je n'ai pas l'habitude de parler comme ça. Voilà. Et le fait que.
On parlait de la prudence des gouvernements démocratiques, de leur prudence.
Oui. Et donc, ces gouvernements, donc, ils étaient aux ordres de ces gens-là, et ce qui s'est passé, on connaît la suite. Mais eux avaient choisi leur camp.
Oui, ils n'étaient pas les seuls. Enfin, je veux dire, le spectre politique français était quand même assez large, et donc les prises de position auraient pu
après tout le monde, être plus fermes. En plus, je reviens sur ce qu'a dit la dame tout à l'heure, là-bas. Le fait que cette émission ce soir nous montrait le. Bon, plus ou moins, je pense que du large des spectateurs, il n'y a pas de. Pratiquement tout le monde savait ce qui s'était à peu près passé. Bon, moi je ne suis pas d'origine espagnole en plus. Mais je savais, j'ai vu des documents, surtout au moment où ils ont passé des documents à la télévision française, surtout au moment d'une commémoration d'un anniversaire des Fronts Populaires. Et c'est là que j'ai vraiment découvert le problème des réfugiés. Et aujourd'hui, bon, on fait cette soirée, mais le fait que aujourd'hui, ils se reproduisent la même chose, exactement la même chose. Les États réagissent de la même façon, comme si à l'histoire, on nous avait rien appris. Donc, ce qu'on fait là ce soir, bon, il faut le savoir. Mais ce qu'on voudrait, c'est des explications politiques, parce que c'est à ce niveau que ça se joue. Voilà. Et pour dire ce qu'a dit le monsieur là tout à l'heure sur l'entrée de Leclerc de drone à Paris, les chars, les engins, les automitrailleuses, elles avaient tout un nom d'une bataille ou d'un truc espagnol. Mais quelques jours après, au moment du défilé avec De Gaulle, tous ces trucs avaient été effacés. Voilà. C'est que avant cet épisode, il y a eu quand même la guerre du Rif. Et il y a deux personnages qui se sont rencontrés sur le Rif. Il y en a un qui s'appelait Franco, l'autre Pétain. Voilà. Et en 1939, le gouvernement français, je ne me souviens plus quel est le nom du premier ministre, enfin du président du conseil de l'époque, en 1939, après le Front Populaire. Eh bien,
Daladier.
Eh bien, il n'avait rien trouvé de mieux que de nommer Pétain attaché militaire à l'ambassade de France à Madrid. Et Franco, en 1939, Franco et Pétain se sont retrouvés. Et encore la
soirée. Je vous remercie. Voilà, donc ce que je voudrais préciser, c'est que bon, nous sommes évidemment face à des événements d'une complexité qui était difficile à réduire. Hein. Donc voilà, mais je suis très reconnaissant, disons, de cet éclairage complémentaire qui est posé très précis.
Il y avait une question au fond. Ok. Alors, une question devant et une au milieu.
Je voudrais qu'on n'oublie pas le destin de Manuel Sáenz, le président de la République, qui est mort à Montauban dans un état de délabrement terrible et que Vichy a interdit qu'on mette le drapeau républicain sur sa dépouille. Donc c'est le drapeau mexicain, puisque le Mexique avait soutenu donc, la retirada et les républicains espagnols. Donc son corps est toujours à Montauban. L'Espagne ne l'a jamais demandé, pourtant c'est quand même un personnage. Alors on a débaptisé toutes les rues, bien sûr, tout ça, pendant le franquisme, mais Sáenz mérite d'être honoré. Voilà.
À ce propos, je dirais que le corps de Machado a été réclamé par l'Espagne et que, bon. Comment dire, les Espagnols eux-mêmes sont partagés hein, donc, sur cette question et que à Collioure, on ne le laissera jamais partir. Voilà. Effectivement, le fait de rapatrier hein, les corps de personnages, disons, emblématiques comme Machado dans le domaine de la culture et donc Manuel Sáenz dans le domaine de politique, hein, plus précisément. Donc, c'est une question qui s'est posée en particulier donc, après la chute du franquisme, c'est-à-dire dans les années 75 et au-delà. Hein. Et bon, ça a été résolu de manière très différente. Bon, puisqu'on parle de lieu de sépulture, un collègue disait l'autre jour, il est quand même tout à fait inhabituel et incongru que la tombe d'un dictateur existe toujours. Je parle de Franco, ce n'est pas le cas d'Hitler, ce n'est pas le cas de Mussolini, et qu'un mausolée de l'ampleur du Valle de los Caídos soit un lieu de pèlerinage. Je m'avancerai, puisque vous voulez de la politique, je vais vous en servir. Je m'avancerai en disant que ce qui se passe aujourd'hui en Espagne, l'attitude du président du gouvernement espagnol et de son parti sont en droite ligne issues de ce culte-là. Et vous voyez, vous devinez à peu près ce que j'en pense.
Bonsoir. Je voulais faire une remarque et peut-être poser deux questions. Donc la remarque, c'est par rapport à la phrase que vous avez laissée afficher. Je crois que déjà, c'est une soirée comme aujourd'hui qui aurait commencé à répondre à cette intention de faire son possible. Deux questions. Donc, est-ce qu'il y a d'autres pays à ce moment-là qui avaient dit que peut-être ils pourraient accueillir quelques réfugiés espagnols?
Et
deuxième question. Deuxième question, je ne pense pas être descendante de réfugiés espagnols, mais il y a un trou dans la mémoire familiale. Il y en a beaucoup, petits-enfants, arrière-petits-enfants, totalement français, totalement insérés, et j'en suis ravie. La question que je me pose, c'est, ils sont entrés, ils ont passé les frontières, ils sont rentrés parqués dans les camps, de quelle manière ils sont sortis pour aller où ? Combien y en a-t-il qui sont effectivement restés en France? Combien y en a-t-il qui ont pu, qui ont eu la volonté, à quel moment, d'aller dans une nouvelle Espagne? Voilà, c'est une question que je me pose par rapport à l'accueil des migrants, que l'on peut faire aussi sur les territoires français, et le fait qu'il faut prévoir, je crois, leur insertion à très long terme.
Alors, je vais donc répondre dans l'ordre. À la première question, la plupart des réfugiés espagnols républicains sont passés par la France, mais un certain nombre sont partis aussi au Mexique. Et d'une manière générale, beaucoup moins concentrés en Amérique latine, en fonction aussi des traditions d'émigration de certaines régions espagnoles. Je pense en particulier aux régions du Nord, comme la Galice, comme le Pays Basque, comme les Asturies. Ils ont emprunté en quelque sorte des chemins migratoires traditionnels. Ils ont été donc accueillis là-bas. Alors le Mexique a été une terre d'accueil particulièrement significative, puisque le gouvernement républicain, espagnol en exil, s'y est réfugié. De la même façon que le gouvernement aussi de la Generalitat de Catalogne. Si vous voulez, il y a une mémoire républicaine aussi au Mexique, tout particulièrement. Mais dans d'autres pays, mais le Mexique, symboliquement et numériquement, est un lieu très significatif. Alors, par ailleurs, donc ces camps ont été des camps pour la plupart de transit. Vous avez vu, 242 000 sont passés à Argelès. En fait, au plus fort du processus, il n'y ont été que 80 000. C'est une façon de parler. Donc, ce qui veut dire qu'ils n'ont fait qu'ils passaient, ils ont été redistribués. Alors redistribués dans les camps de la zone libre dont nous avons parlé. En particulier, donc, il y avait un camp particulièrement dur qui était celui de Gurs, à côté de Pau. Et là, les soldats des brigades internationales, ceux qui étaient réputés, particulièrement, rouges particulièrement, virulents, ont été placés dans des conditions disciplinaires. Ensuite, donc vous avez vu aussi que les, ceux qui avaient des problèmes sanitaires aussi ont été ventilés, par exemple, sur d'autres camps, qui étaient plus à même de les recevoir dans des conditions décentes, dirons-nous. Et alors, d'une manière plus générale, certains donc, ont vécu des périples absolument lamentables, c'est, rétrospectivement, ballottés d'un camp à l'autre. J'ai par exemple, enfin, je pourrais vous citer un témoignage d'une dame qui, enfant, donc, est passée par, pas dire, je crois que c'est entre 8 et 10 camps différents. Il y a eu tout un itinéraire des îles, là, parfois très, très compliqué. Alors certains, bien sûr, par la suite, ont eu l'intention de revenir. En particulier, certains qui se sont aperçus, enfin qui ont préféré le risque, courir le risque de retourner dans l'Espagne sous la tutelle franquiste que la vie, enfin, à la vie dans les camps. D'autres donc sont partis, alors ils ont été répartis par profession sur l'ensemble du territoire français. Ils ont été éclatés, ils ont essaimé. Dans telle région, on avait besoin, par exemple, d'ouvriers de la métallurgie, de mineurs, etc. etc. Donc en fait, la France, d'une certaine manière, alors je n'entends pas les détails parce que je ne sais pas comment. Hein, encore une fois, je ne suis pas historien, a procédé à une sorte de répartition qui a dilué en quelque sorte le phénomène. Voilà. Donc il y a eu des retours, mais il y a eu beaucoup de réfugiés qui, après une migration plus lointaine, sont retournés près de la frontière, et en particulier le département des Pyrénées-Orientales, mais aussi le département de l'Aude, le département de la Haute-Garonne, le département de l'Hérault, se signale comme des départements qui ont accueilli beaucoup de réfugiés espagnols. Et ça, on le sait aussi parce qu'ils se sont organisés en association, par exemple, à Béziers, vous aviez la colonia espagnola. À Perpignan, vous avez une association qui existe toujours, qui regroupe des Espagnols. Vous voyez, donc il y a eu des trajectoires tout à fait différentes. C'est un peu en fonction du vécu de chacun, des arbitrages, je dirais, familiaux aussi parfois, que les gens se sont décidés pour l'une ou l'autre option. Voilà, c'est extrêmement varié. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait eu ces camps a contribué à fixer une partie de ces populations qui se sont effectivement intégrées progressivement. Voilà, qui ont acquis la nationalité ou pas d'ailleurs. Et qui ont, malgré justement cette. Comment je dirais. Malgré ces termes de choix, c'est-à-dire devenir français ou rester espagnol, n'ont pas nécessairement gardé le même rapport à ce qu'ils avaient vécu. J'insisterai particulièrement sur le fait que dans les familles, hein, il y a ceux qui parlent et ceux qui ne parlent pas. Il y a souvent des gens qui sont restés absolument muets, hein, comme nous en avons eu un témoignage, sur leurs expériences. Que je peux vous dire à on m'a dit de le mordre, mais je peux vous citer le cas de mon ex-belle-famille, qui était donc, des républicains espagnols. Mon beau-père d'alors, qui avait fait les camps, n'a jamais parlé. Ma belle-mère, elle connaissait beaucoup moins, elle parlait beaucoup plus. Donc en fait, c'est très difficile de faire celui-là au départ. Je sais pas, je suis désolé. Voilà. Voilà, je crois que j'ai répondu à la question.
C'est un prix, ça.
sans micro, voilà ce que ça donne. Sans micro, il va essayer.
Ben, je suis désolé.
Alors, pourriez-vous vous lever pour... Qui c'est qui a une question, là? J'ai pas vu. Vas-y. Alors, tu vas...
Je vais essayer de parler.
Voilà.
Simplement, mais tu n'es pas historienne, tu l'as dit, mais tu connais ces épisodes, c'est-à-dire la tentative qui a été menée depuis la Haute-Garonne, et je pense depuis Toulouse, de la reconquête... un peu du Val d'Aran.
Oui.
Montrégeau.
Et qu'est-ce qui s'est passé?
Les carbones. Ils sont partis de carbone.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que cette tentative a avorté. C'est-à-dire. Que... Pardon, excusez-moi. Alors, je vais essayer de parler plus fort.
Voilà. Celui qui est posé sur la table.
Celui qui est posé, là, et vous avez.
Alors, je ne sais pas. Vous m'entendez mieux, là?
Voilà.
Merci. Alors. Je vais essayer de ne pas polluer celui-là. Voilà. Donc c'est une. Alors je n'ai.
Pardon. Il marche pas.
Il marche pas. Bon, donc c'est pour ça qu'il ne crachouille pas.
Non, celui-là, il ne marche pas. Celui-là
ne sert pas. Bon.
Mais je crois que ça veut dire que la séance est presque terminée. Hein. Voilà. Les micros à l'embrasser. Hein.
Alors. Ce que je vais dire, c'est que je ne sais presque rien de cela. Je connais vaguement, disons, l'épisode. Je sais que, en fait, cette tentative a fait chou blanc, mais je n'en sais guère plus. Donc, malheureusement, je ne peux pas te répondre.
L'exposition, on en parle.
Qui dit, voilà. Qui dit tout ça?
Il y a, voilà, même des photos de carbone avec des défilés, donc des républicains.
J'irai voir l'exposition demain. Je suis arrivé cet après-midi. Merci.
Pas loin de nous, on a à Miramont de Comminges, puisque nos collègues de Memoria et Exilio, une association saint-gaudinoise, a fait une manifestation le dernier week-end de septembre. À Miramont de Comminges, donc, il y a eu beaucoup de familles réfugiées qui sont arrivées au refuge, ça s'appelle le refuge. Et donc, il y a aussi des témoignages de ce secteur-là. Voilà. Jean-Pierre, je peux enchaîner ou...
Oui, j'ajouterai simplement, c'est une ironie de l'histoire, je vous parle des camps, et mon père ici présent, ayant été instituteur pendant de nombreuses années à Noé, j'ai vécu, étant petit, dans le cadre d'un camp. Voilà. Et quand je vois un camp, par exemple celui de Rivesaltes aujourd'hui, j'ai un sentiment très particulier. Voilà, c'est un cadre qui, finalement, dans l'horreur, m'est familier. C'est assez paradoxal. Voilà, je voulais le dire parce que ça se passait à Noé.
Je profite d'avoir un micro pour dire qu'il y a une personne qui veut vous offrir un tableau.
Oh, il est pas sec, correct.
Mais si vous pouvez venir...
Alors l'important, c'est que je ne suis pas resté sec, moi.
Monsieur Lagarde, bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir, pardon. Je suis autodidacte, je peine depuis 2 ans, et je viens de vous le finir à l'instant. Il n'est pas sec.
Merci, merci infiniment. Voilà le tableau qui vient de nous être...
offert.
Vient d'être offert, qui donc a été réalisé. Vous vous appelez, monsieur?
Il y a mon nom.
Pardon, excusez-moi.
Non, mais c'est...
La Ronda de Voltaire?
Oui.
Vous vous appelez la Ronda de Voltaire?
Non, non, je ne sais pas. Je m'appelle Voltaire.
Vous vous appelez Voltaire.
La Ronda de Voltaire existe.
Tu peux l'éteindre celui-là,
oui,
ou pas?
Oui,
parce que Gilles, tu peux l'éteindre?
Pardon, excusez-moi, je vais le montrer.
Tu peux éteindre le...
Merci,
bon, la vidéo?
Rien. Je vais m'asseoir parce que je ne tiens pas debout.
Oui. Ah, oui.
Le tableau est intitulé La Ronda de Voltaire parce que c'est Monsieur Voltaire qui paie en quelque sorte la ronda, c'est-à-dire qui paie sa tournée.
Voilà. Merci, c'est gentil ça. C'est vrai que je suis le dernier.
Mais non, mais c'est pour ça qu'on appelle ça la ronda.
Eh oui, la ronda, si, voilà. Si. C'est exact, c'est exact. Je le lis, voilà.
Merci infiniment.
De rien. Je suis autodidacte, je ne peins que depuis 2 ans. Par contre, j'ai mon frère qui est graphiste, qui est premier français, premier européen, premier mondial.
Ah, donc dans la famille, il y a des
traces. Oui, il y a des antécédents.
Merci, monsieur.
J'étais très bon en dessin, c'est tout, ça s'arrête là. En 2 ans, je suis à 200 tableaux, à peu près. Wow.
Maintenant, c'est...
Excusez-moi, je vais à ma place, parce que je ne tiens pas dessous.
Merci encore, monsieur. Et merci, bien sûr, à Christian Lagarde. Comme j'ai dit tout à l'heure, cette conférence se situe dans un ensemble plus grand. Et maintenant, la présidente de Histoire et Tradition, avec qui nous avons fait cette manifestation, va vous expliquer tout ce qui se passe.
Ça sera cool. Donc, comme le disait Jean-Pierre tout à l'heure, donc, à la galerie municipale, donc, dans l'enceinte de la mairie, vous avez l'exposition qui est une réalisation en fait, du musée départemental de la résistance et de la déportation. Donc cette exposition est en place depuis lundi et elle le sera jusqu'au 15 novembre. Exceptionnellement, la mairie sera ouverte le dimanche 29, donc dimanche prochain, de 14h pardon, à 19h, avec donc, un vernissage musical par Éric Fral, donc je suis présent, je l'ai vu tout à l'heure, petit-fils de réfugiés réfugié républicains espagnols, et qui nous mettra donc en chanson des textes de sa composition et d'autres. Donc à 16h, et la mairie donc sera ouverte jusqu'à 19h, de façon à ce que vous puissiez en profiter, y compris les gens qui travaillent la semaine et le samedi. Ensuite, on aura le dimanche 12 novembre à 17h à la salle de cinéma ici, en partenariat avec Ciné Carbone, le film Angèle, en présence d'Angèle qui est donc... l'acteur, il joue son propre rôle, il a 87-88 ans, c'est un Toulouseur. Et il va retracer, donc ce film retrace son épopée en fait. Hein. Il avait 10 ans quand il est parti en exil, il est arrivé donc en France. Donc dans ce film, il refait en fait son parcours à l'envers, accompagné donc de Domingo, le père du réalisateur, qui sera également présent. Donc je vous invite à venir nombreux à cette séance que nous avons eu un petit peu de mal à mettre en place parce qu'au départ c'était justement sur la maternité d'Elle que nous devions avoir un film, un téléfilm exactement, mais un téléfilm espagnol. Donc on a eu beaucoup de difficultés à trouver le producteur, etc. Et on a finalement abandonné parce qu'on n'avait pas de sous-titrage, donc ce n'était pas du tout pertinent. Là, nous aurons donc Angèle, qui a été réalisée en 2016, qui a été présentée au Festival Cine España l'année dernière au Cratère, et qui est assurément un petit bijou, en plus avec donc, l'acteur lui-même, donc, qui joue son propre rôle. Voilà. Donc, expo jusqu'au 15 novembre, et merci encore d'avoir répondu très très nombreux à cette conférence. On est très contents de vous avoir pu là. Merci beaucoup.
Bravo à Histoire et Tradition Carbonaise pour le super boulot qu'ils ont fait. Voilà. Pour ceux qui ont le temps, il y a quelques bouteilles au fond, quelques éléments pour grignoter. Ceux qui ont le temps, ils sont les bienvenus pour partager avec nous quelque chose.
J'ai oublié une petite chose. Dans le temps de l'exposition, nous n'avons pas pu mobiliser les collégiens du collège à Bâle. Parce que ça ne correspondait pas en fait sur le timing de l'année scolaire. En revanche, ils vont travailler sur ce thème en janvier, et donc l'exposition sera à nouveau exposée au collège. Je ne sais pas dans quelle mesure ils pourront ouvrir au public, mais en tout cas, les élèves vont retravailler sur cette exposition et sont à la recherche de témoignages
donc de réfugiés eux-mêmes, mais bon, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais de descendants, éventuellement, donc, pour venir témoigner auprès donc, des élèves du collège de Carbone, en sachant qu'il y a déjà l'association Memoria Exilio qui va leur fournir donc, quelques témoignages, et José Barrios, donc, que vous avez entendu tout à l'heure, qui ira aussi témoigner auprès des élèves. Voilà. C'est le sens de ce type de manifestation.
Je profite pour vous parler de la prochaine conférence de la Fupanvol qui aura lieu exceptionnellement à Cazères, début novembre, 8 novembre, à la salle des fêtes de Cazères, et qui portera sur la recherche des pionniers de l'aéropostale. Une personne qui a essayé de suivre la route dans les Andes et un peu partout des pionniers donc de l'aéropostale. Ça aura lieu, je répète, à Cazères, à la salle des fêtes, à 20h, le 8 novembre. Merci.
Et le 1er novembre, il y a la cérémonie du souvenir au Vernet. Vous l'annoncez ?
Oui, on me demande d'annoncer le 1er novembre la cérémonie du souvenir au Vernet.
À 11h.
À 11h.